Europe 1, 14h-15h,
Clap, Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Clap, l'émission qui raconte le cinéma. C'est vraiment notre promesse, on va essayer de vous raconter le 7e art, notamment dans sa dimension sociétale. Et justement, dans notre récit du jour, on va revenir sur cet été meurtrier que viennent de connaître les cinémas français, crise du Covid oblige. Je vous raconterai tout ça, puis on en discutera avec Dominique Besnéard, qui est producteur de films et qui dirige aussi le Festival d'Angoulême qui a débuté hier soir, où nous sommes installés d'ailleurs pour ce premier numéro. Et puis nous en parlerons aussi avec Benoît Delépine, réalisateur d'Effacer l'Historique, qui devait sortir en avril et qui a finalement débarqué dans les salles mercredi dernier. Alors comment a-t-il vécu cette attente? À 14h30 chaque samedi, un nouveau rendez-vous. On soumettra une personnalité à notre questionnaire de Proust, mais version cinéma. Quel film les a le plus marqués? Quel est leur film adoré mais inavouable ou leur dialogue de cinéma préféré? C'est Clara Luciani, jurée ici à Angoulême, qui a accepté d'être la première à se prêter au jeu. Puis à 14h40, le tour de table des critiques. On vous dira avec mes confrères ce que l'on a pensé d'Effacer l'Historique, de Petit Pays, de Tenet aussi, sorti sur vos écrans cette semaine. Et on ira vous écouter à la sortie des salles, vous spectateurs, pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission cinéma. Retenez bien le nom, ça s'appelle Clap. Et d'abord donc, place à notre récit, un été meurtrier pour les cinémas français.
Europe 1, le récit.
Tout commence le 14 mars dernier. Le ciel est voilé sur une majorité du pays, les températures tournent autour d'une quinzaine de degrés. Bref, c'est un temps idéal pour aller au cinéma. D'ailleurs, les films en salle depuis plusieurs jours marchent bien. De Gaulle, avec Lambert Wilson dans le costume du général, enregistre déjà 600 000 entrées au compteur.
Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs.
La Bonne Épouse aussi, portée par Juliette Binoche, qui approche des 200 000 tickets vendus. Et puis surtout, de gros films sont programmés dans les prochaines semaines, notamment le nouveau James Bond. L'agent 007 est absent du grand écran depuis plus de 4 ans. Les exploitants des salles de cinéma l'attendent comme le messie et se frottent déjà les mains. Alors certes, le milieu du cinéma, comme le reste du pays d'ailleurs, sent bien que ce virus venu de Chine menace, mais tout le monde est loin d'imaginer ce qui nous attend. Car en quelques minutes, ce samedi 14 mars 2020, à 19h41 précise, tout bascule.
J'ai décidé, en lien avec le président de la République, la fermeture des restaurants, cafés, cinémas, discothèques, de tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays.
Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, tous les cinémas doivent baisser le rideau. Jusqu'à quand? Personne ne sait. Mais le milieu du cinéma est sous le choc. Même pendant les guerres, ce n'était pas arrivé. Le cinéma est à l'arrêt complet. Tous les tournages sont arrêtés net. Les réalisateurs tombent des nues. Pascal Elbey, en plein tournage de son film, En effet pour s'entendre. Olivier Barou, qui dirige alors Les Tuches 4, lui aussi est obligé de stopper le tournage. Du jour au lendemain, nous nous sommes dit au revoir le vendredi soir en pensant nous revoir le lundi. Et dimanche, le mail partait pour dire que tout s'arrêtait, déplore-t-il dans les colonnes du journal Le Monde. C'est comme si le temps s'était stoppé net. D'ailleurs, une rue de Montmartre, au cœur de Paris, où se tourne Adieu Monsieur Hoffmann, reste figée en 1940, affiche de propagande nazie collée sur les murs. Fred Cavaillé, le réalisateur, raconte sur Europe 1.
Effectivement, on s'est arrêté un vendredi soir en espérant peut-être reprendre le lundi d'après, mais ce n'était pas possible. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont restées en place et c'est devenu le symbole des tournages arrêtés.
Le calvaire va durer 99 jours. 99 jours sans qu'aucun cinéma français ne puisse projeter de film. Le prestigieux Festival de Cannes doit même annuler ses festivités sur la Croisette. Alors quand le 22 juin dernier, les salles sont enfin autorisées à rouvrir avec masque obligatoire dans les halls, c'est tout le milieu du cinéma qui veut y croire. D'ailleurs, la fréquentation des premiers jours n'est pas si mauvaise. Le public semble répondre présent.
C'était bon, ça fait vraiment du bien. On voulait absolument y aller aujourd'hui.
Le son, il n'est pas le même aussi que la télé.
C'est ça, c'est le plaisir d'avoir un grand écran, un super son. Non, c'était parfait.
Alors que l'offre de films, elle, reste très réduite, obligeant d'ailleurs beaucoup de cinémas à rediffuser de grands classiques. Mais ce sont près d'un million de personnes qui sont retournées dans les salles la première semaine. Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français, veut y croire.
Ce qu'on peut se dire, c'est que les salles sont ouvertes, et que les spectateurs reviennent et qu'en 5 jours, il y a déjà 1 million de spectateurs qui sont revenus. Donc les Français sont attachés à leur salle de cinéma et que c'est plutôt très très bien.
Mais ce n'est en fait qu'un rayon de soleil au milieu d'un ciel très sombre. Car tour à tour, les gros studios annoncent décaler les sorties de leurs films. Mulan, attendu en juillet, repoussé. Le film sera finalement disponible directement sur la plateforme Disney+. La déception des exploitants de salles est immense. Ils comptaient dessus pour attirer un public familial, notamment pendant l'été. Tenet, de Christopher Nolan, repoussé aussi. Il a fini par sortir mercredi dernier. Kaamelott, l'adaptation très attendue d'Alexandre Astier, programmée fin juillet, repoussé. Et la liste s'allonge de jour en jour. La solidarité interprofessionnelle de la filière ne fonctionne plus, déplore dans un communiqué fin juillet la Fédération nationale des cinémas français. Alors certes, certains tournages reprennent au compte-gouttes, comme Eiffel, incarné par Romain Duris et réalisé par Martin Bourboulon, à qui l'on doit déjà les deux films Papa ou Maman, mais c'est avec un protocole sanitaire très strict et un scénario qui a dû être adapté.
On a par exemple une grande scène de déjeuner qui est la première rencontre réelle entre Eiffel et la famille Bourgès. On a finalement opté pour une solution où ils seront plus que 10, avec une distance un peu plus importante que celle qu'on avait prévue, mais qui est une fois à la caméra, avec un système technique sans rentrer dans les détails de longue focale et de disposition dans l'espace, va pas se ressentir à l'image.
Deux mois plus tard, un peu plus d'un million de spectateurs seulement se déplacent dans les salles chaque semaine. C'est quatre fois moins qu'en temps normal. En cette fin d'été, on estime que les cinémas français ont déjà perdu 500 millions d'euros. D'ailleurs, certaines salles, comme les 7 Parnassiens à Paris ou l'Hémisphère Théâtre à Coulommiers, ont même décidé de refermer. Son propriétaire s'explique.
Coulommiers est un cinéma généraliste. On a besoin de films américains. Ça représente à peu près 80% de nos entrées. Et aujourd'hui, bah, Hollywood est fermé. On n'a plus du tout de films américains. Et en fait, les spectateurs ne sont pas là. Plus on ouvre et plus on perd de l'argent. Les recettes ne couvrent pas, en fait, les dépenses.
Alors l'État s'est engagé à apporter des aides financières. La filière demande des centaines de millions d'euros, d'autant que plusieurs doutes subsistent. Les Français qui ont massivement regardé les plateformes type Netflix, Prime Video ou Disney+, pendant le confinement, ces Français vont-ils retrouver l'envie d'aller au cinéma, masqué, qui plus est? Et puis il y a tous ces films, prévus au départ pour la salle et finalement sortis directement sur ces plateformes. Forte, portée par Mel Rabedia, ou Brutus versus César de Cairon, peut-être le début d'une longue liste. Et si Tenet semble avoir correctement démarré en salle mercredi dernier, les autres gros studios vont-ils pour autant maintenir leur sortie, y compris James Bond, toujours prévu pour le 11 novembre? Toutes ces questions, on en parle dans un tout petit instant dans la suite de Clap avec Dominique Besnéard, ancien agent, producteur et grand patron du Festival du film francophone d'Angoulême où nous sommes aujourd'hui. Festival qui siffle la rentrée pour tout le cinéma français. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. Clap. Mathieu Charrier.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, votre nouvelle émission cinéma. Il y a quelques minutes, je vous racontais l'été meurtrier pour les cinémas français. Et je suis maintenant très heureux d'en parler avec notre premier invité dans cette émission, cette nouvelle saison. C'est un peu notre parrain, monsieur Dominique Besnéard. Bonjour Dominique.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Je voulais parler de ce sujet avec vous pour plusieurs raisons, notamment parce que vous êtes producteur de films et puis parce que vous dirigez avec Marie-France Brière le Festival du film francophone d'Angoulême, où nous sommes aujourd'hui, on est installés. Ce festival a débuté hier soir avec le film de Carverne et Delépine. D'ailleurs, on aura Benoît Delépine dans quelques minutes avec nous. Et c'est le festival qui siffle chaque année la rentrée pour le cinéma français. Alors d'abord, Dominique, une petite question volontairement provocante. Est-ce que le cinéma, et notamment le cinéma français, va se remettre, selon vous, de cette crise du Covid?
Moi, je pense qu'il va se remettre parce que ce qu'on va vous proposer à Angoulême, et ce qui est quand même le reflet de la production française, cette année vraiment d'un grand niveau. Par exemple, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal avec Laure Calamy, c'est une comédie vraiment moderne, d'esprit insolite, irrévérencieuse. Mais il y a aussi La fine fleur, que j'ai adorée, de Pierre Pinault avec Catherine Froh. Et puis il y a un film aussi dont j'ai eu la surprise de découvrir, Villa Caprice de Bernard Stora, avec Nils Arestrup et Patrick Bruel, vraiment formidable. C'est un film un peu dans la grande tradition du cinéma comme René Clément.
Ouais, juste pour savoir, on en a pour combien de temps là, tous les deux, enfin, approximativement?
Vous savez, quand vous entrez dans le bureau d'un juge, vous ne savez pas si vous êtes là pour 5 minutes ou pour 5 heures.
Non, le jeu de rôle, j'ai compris, mais là, on est juste entre nous. C'est pour savoir à quelle heure je dois mettre le gigot au four.
Alors, le gigot, vous l'aimez bien cuit, rosé, saignant?
Saignant.
Bien, c'est moi qui donnerai le top. Voilà, maintenant, s'il vous plaît, asseyez-vous.
Alors, vous allez me dire, il n'y a pas eu le Festival de Cannes, ni le Festival de Locarno. N'empêche qu'il y a une grande production dans sa diversité. Alors j'espère que les gens vont revenir, même s'il y a des petits rebonds. Maintenant, on a l'impression qu'on gère très bien, qu'il y a des masques, que tout le monde a des masques, et que la vie continue, et la vie continue au cinéma à Angoulême, puisqu'on est le détonateur de cette nouvelle saison.
C'est joliment dit, le détonateur. Vous qui avez l'ami des stars, comme on vous présente parfois, vous avez eu des stars, des actrices, des acteurs pendant ce confinement au téléphone, inquiets pour eux, pour leur carrière, pour le cinéma ?
Non, mais parce que j'ai l'impression que, alors justement, ils se posaient beaucoup de questions, de se dire, voilà, je ne m'exprime pas. Alors, il y a eu beaucoup de, sur Internet, beaucoup de gens qui ont fait des improvisations, plus ou moins bonnes du reste. Mais moi, c'est vrai que, surtout, les gens se sont retrouvés. Et les acteurs se sont retrouvés. Moi, j'ai plein d'actrices. Il y a une actrice qui m'a dit, eh bien, je fais la paix avec moi-même. Il y a ceux qui sont partis, un peu comme l'Exode, directement à l'île de Ré. Mais ce n'est pas toute la profession.
Pendant ce confinement aussi, les spectateurs se sont tournés forcément vers les plateformes, Netflix, Amazon, etc., pour occuper leur soirée. Est-ce que vous pensez que ça a pu changer aussi des habitudes de consommation ?
Moi, c'est ça mon inquiétude. C'est que les gens ne retournent pas au cinéma, pas parce qu'ils ont peur du Covid, mais parce qu'ils ont pris les habitudes d'être chez eux, de voir des propositions de cinéma dans toutes les plateformes, que le cinéma était très présent pendant la Covid. Mais n'empêche que moi, je reprendrai le mot de Godard, au cinéma, on lève la tête et on va vers le spectacle, ensemble, même si on est séparé d'un fauteuil, tandis qu'à la télévision, on baisse la tête. Donc c'est très important cette symbolique.
Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de se poser les bonnes questions ? Ça fait des années qu'on dit qu'il y a trop de films qui sortent chaque semaine dans les salles. Est-ce que cette crise, ça ne peut pas être salutaire ?
C'est-à-dire que la crise, elle va peut-être permettre de... Vous savez, moi, je suis producteur, comme vous le dites, et on voit bien que c'est plus compliqué de trouver les financements. Je ne parle pas pour la télévision et les séries, parce que la télévision, au contraire, a bien redémarré, il y a plein de tournages. Le cinéma, c'est plus compliqué, parce que c'est normal, il y a quand même une incertitude de financement, et voilà, c'est plus compliqué. Donc, il y aura peut-être moins de films, mais... Moi, je suis contre quand on dit qu'il y a trop de films, parce que ça veut dire que quand on voit, par exemple, en Italie, il n'y a plus de films, en Espagne, il n'y en a plus, en Allemagne, il y en a moins, en Angleterre, heureusement qu'il y a les Américains qui sont là pour les financer. Donc la France, elle est riche. Moi, je suis assez positif. De toute façon, la vie doit continuer et on ne peut pas revivre une année sans cinéma. Sinon, c'est carrément notre industrie qui va... Et voilà, et on n'est pas léger sur le fait de tenir compte de cette méchante Covid.
Et du coup, ça, j'imagine que vous avez vraiment envie, encore plus que les années passées, que ce soit Angoulême qui signe le retour du cinéma, la rentrée du cinéma.
Justement, moi, je c'est là la pression. Moi, ça y est, je prends Euphytos parce que c'est vrai que tous les regards sont braqués sur nous. Donc, on ne va absolument pas faire un faux pas. Et en même temps, si ça marche, eh bien, je pense que ça sera une belle victoire par rapport à toutes les embûches qu'on a eues.
Et il reste quelques places en début de semaine là, pour venir participer au festival.
Oui, il y a encore à peu près, on me dit, 500 places. Venez vite.
Venez vite. Merci beaucoup, Dominique Besnéard.
Merci
d'avoir participé à cette première de Clap. Je vais un tout petit peu plus loin retrouver Benoît Delépine, réalisateur d'Effacer l'historique, on le disait en préambule, qui a ouvert votre festival hier soir. Sauf que le film devait à l'origine sortir le 22 avril. On va voir comment lui et son comparse Gustave Kerven ont vécu ces étranges mois. Mais puisque, tiens, on parle de l'été meurtrier pour les cinémas français, je vous propose d'écouter la bande originale de L'été meurtrier, le film de Jean Becker qui révèle Isabelle Adjani, musique originale signée Georges Delru. Vous êtes bien à l'écoute de Clap, votre nouvelle émission cinéma sur Europe 1.
14h-15h sur Europe 1, Clap.
Thank you.
Été meurtrier, la bande originale composée par Georges Delerue pour le film de Jean Becker, avec ce titre qui fait évidemment écho à cet été de post-confinement que viennent de traverser les salles françaises. On va justement continuer à en parler dans un tout petit instant avec Benoît Delépine, le réalisateur d'Effacer l'Historique, qui est sorti mercredi dernier en salle. À l'origine, son film devait sortir en avril. Alors comment a-t-il vécu toute cette période ? A tout de suite sur Europe 1.
14h-15h, clap sur Europe 1. Mathieu Charrier.
Et nous sommes toujours depuis cette belle ville d'Angoulême pour votre premier numéro de Clap, nouvelle émission cinéma d'Europe 1, où l'on vous raconte l'été meurtrier pour les cinémas français, crise du Covid oblige. On va maintenant discuter avec le réalisateur d'un film qui devait sortir en plein confinement, qui a évidemment été décalé. C'est Benoît Delépine qui a gentiment accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour.
Ce film, c'est Effacer l'Historique, que vous avez une nouvelle fois co-réalisé avec Gustave Carven. Alors il montre, je vais faire court, on va en reparler dans la dernière partie de l'émission, mais il montre à travers l'histoire de trois personnages, comment cette ère du tout numérique que nous traversons n'a pas que des bons côtés, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce film, à l'origine, il devait sortir en avril, il a été repoussé. Déjà, au moment où vous apprenez qu'il est repoussé, j'imagine que vous, vous êtes en train de faire les tournées d'avant-première. Comment on vit tout ça ?
Alors, c'est assez fou. C'est pas un coït interruptus, c'est un accouchement interruptus. C'est-à-dire, c'est madame, poussez, puis après, madame, arrêtez de pousser. Donc, c'est très... très bizarre comme situation, puisqu'effectivement, on a eu la joie d'avoir l'ours d'argent à Berlin. Mais déjà, on sentait un espèce de malaise, parce que c'était là, à l'époque, les yeux étaient plutôt tournés vers les Chinois, les Coréens, les Italiens, mais qui étaient à Berlin. Donc déjà, c'était un peu bizarre. Ensuite, dans la foulée, on fait le festival de Valenciennes, on fait l'ouverture du festival de Valenciennes. Ça se passe bien, mais le lendemain, tout le reste du festival est annulé parce qu'il y a un des membres de l'organisation qui avait le Covid. Et ensuite, tout s'enchaîne. On avait l'impression d'être dans une maison en feu. Et bien sûr, comme tout un chacun, tout le monde était... Moi, je suis allé me planquer chez moi à la campagne. Et on se retrouve pendant tout le confinement en train de se dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en mode pause, quoi, mais en n'ayant aucune idée de combien de temps cette pause allait durer. À un moment, on a eu la tentation de sortir au mois de décembre, mais en même temps, c'est nous, en tant que créateurs, pendant ce bizarre confinement, on pourrait se dire, tiens, on a deux mois, on va en profiter pour écrire le film d'après. Mais en fait, non, on est vraiment en pause, on n'arrive pas à penser à l'après. Donc il y a quand même un moment où on se dit, bon, il y a un moment, il faut le sortir, ce film, d'une façon ou d'une autre. Et il se trouve que le fait... désigné comme président du jury ici à Angoulême, tout le monde, notre distributrice, tout le monde s'est dit bon, pourquoi pas profiter de ça pour lancer à la fois le film, et puis ce qui fait que voilà, on s'est lancé, mais tout ça c'est un peu une espèce de roulette russe bizarre. On ne sait pas si tout d'un coup il ne va pas y avoir un nouveau confinement ou pas, enfin bon, c'est très compliqué. Mais ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a eu une forme de renaissance, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une période où il n'y avait personne dans les salles. Et le fait de faire nos avant-premières, de s'apercevoir que les salles se sont remplies et que la clientèle habituelle des cinémas revenait à l'occasion, disons que ça a donné quand même un peu l'énergie à tout le monde. Donc finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée de sortir à ce moment-ci.
D'autant que les chiffres de mercredi dernier sont bons, donc le film démarre bien. Après, il va falloir voir comment il vit, mais donc ça veut dire que peut-être que le public a envie de retourner au cinéma.
Bien sûr, parce que c'est ça aussi. Pendant le confinement, les gens ont eu, pour certains, découvert des nouvelles façons de consommer des films. Mais c'est vrai que le consommer ça sur des petits écrans, etc., et ça a des limites. Et puis tout seul, c'est toujours cette forme de solitude dont on parle dans notre film. Il y a un moment, on aurait envie d'être ensemble et de renouer avec ce plaisir de l'homme des cavernes, d'être tous ensemble dans une caverne et de regarder des murs peints qui bougent, on va dire.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une belle occasion pour le cinéma français, puisqu'en ce moment, il n'y a encore quasiment que des films français. Mm-hmm. Il y a évidemment Tenet, mais pour l'instant, on a encore reçu d'autres blockbusters été repoussés. Est-ce que vous pensez que c'est aussi l'occasion pour les films français de retrouver leur place et que les gens... on parle toujours de ce ratio 40% pour deux films français, 60% de films étrangers. Peut-être que le ratio redevienne vers les films français.
Pourquoi pas ? Il faut, si vraiment tout le monde redécouvre le plaisir du cinéma, c'est bien de profiter de certaines belles petites propositions étonnantes du cinéma français. Enfin, c'est ce que nous, avec Gustave, on va essayer de promouvoir en étant au jury. On va essayer de promouvoir des films qui ressemblent pas à justement des films américains ou des films français classiques.
Parce que vous présidez aussi le jury ici. Voilà. La suite, justement, vous disiez, on a du mal à travailler sur les films suivants, mais est-ce que du côté de la production, des producteurs, vous sentez qu'il y a une petite réticence à se lancer sur de nouveaux projets ou pas ?
Ben, c'est-à-dire que les producteurs, malgré tout, c'est quand même les projets qu'on leur propose. Alors, je ne sais pas, mais s'ils reçoivent 10 films sur le confinement, à mon avis, ça ne va pas le faire.
Vous n'avez pas écrit votre film sur le confinement
non,
encore
non, 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 non. Non, mais ça, je pense que justement, on a envie d'entendre parler de tout, mais pas de ça. Quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît Delépine, et je conseille à nos auditeurs d'aller voir cet effacile historique. On va en discuter dans un tout petit instant dans la partie critique de notre émission, Clap. Et dans un instant, c'est une nouvelle séquence qu'on va ouvrir, notre questionnaire de Proust, mais version 7e art. Quels sont les films qui l'ont le plus marqué? Quel est le film qu'elle adore? Quel est son dialogue de cinéma préféré? Je dis elle, puisque c'est Clara Luciani qui va nous répondre, et elle partage le jury avec vous, je crois, ici.
Ah, bah, très bien. Non, je suis très content de ne pas répondre à ce questionnaire.
C'est dans un tout petit instant sur Europe 1, tout de suite.
14h, 15h sur Europe 1, Clap, Mathieu Charrier.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, votre nouvelle émission, l'émission qui vous raconte le cinéma. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Chaque semaine, on a décidé de soumettre une personnalité, pas toujours du monde du cinéma d'ailleurs, à notre questionnaire de Proust, mais version 7e art. Et c'est Clara Luciani qui a accepté d'être la marraine de cette séquence. Je l'en remercie. Bonjour Clara.
Bonjour.
Pas trop la pression?
Bah si, parce que comme je vous le disais, en plus, moi je me sens vraiment la petite sœur du jury, parce que j'ai pas vraiment comme ça de connaissances cinéma. Alors voilà.
Pas besoin d'avoir des connaissances, c'est juste des souvenirs. Parce qu'effectivement, vous êtes membre du jury ici au Festival d'Angoulême. C'est parti, on y va.
C'est parti.
Votre premier souvenir de cinéma?
Je crois que c'est Les Demoiselles de Rochefort. On était en CM1, c'est notre professeur qui nous a amené voir le film.
Ça vous avait plu?
Ça a changé ma vie.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou.
Ça m'a donné envie de chanter. Ça a défini mon esthétique et mon goût, je pense, pour le rétro, tout ça.
Votre pire souvenir de cinéma?
Alors c'est un film qui je pense ne mérite pas d'être vu tellement. Il s'appelle Annabelle 2. Je sais pas trop pourquoi je suis allée voir ça. J'aime bien les films d'horreur. Je trouve ça très compliqué de réussir à faire peur de nos jours, parce qu'on est comme ça matraqué d'images gore en permanence. On a juste à allumer le téléviseur. Et du coup, c'est un art de faire peur. Et je suis très déçue quand je vois un film d'horreur qui ne me fait pas peur. Et non seulement il m'a fait peur, mais en plus il m'a fait rire parce qu'il était très raté. Annabelle 2, que je ne vous conseille pas.
Après que Samuel et moi avons perdu notre fille, nous avons tant prié pour la revoir. Le contact a commencé doucement. Elle a demandé la permission de prendre possession de la poupée. Très vite, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas notre fille.
C'est Janice. Elle a trouvé une poupée, alors elle a...
Janice ne doit pas s'approcher d'elle.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Les Demoiselles de Rochefort, vraiment. Beaucoup plus que dans Les Parapluies de Cherbourg, parce qu'il y a quelque chose de quand même un petit peu plus... Un dénouement plus gai. Alors que Les Parapluies, voilà, c'est quand même très triste.
Le film culte que vous n'avez jamais vu?
Easy Rider.
Et vous le regrettez?
Bah non, mais à chaque fois je me dis, ah, il faut que je regarde Easy Rider. Mais c'est devenu presque comme ça un truc qui... presque une signature, quoi.
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer?
J'ai pas tellement honte, mais je peux regarder très régulièrement Titanic. Mais aussi parce qu'il me renvoie à un moment de ma vie, j'avais peut-être 6 ans quand il est sorti, peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Je me rappelle, on regardait ça avec ma sœur, et du coup, le regarder quelque part, c'est retourner un peu en enfance.
Vous le regardez si souvent que ça?
Bon, j'ai un petit rythme, quoi.
Je suis le maître du monde. There's nothing I fear. And I know that my heart will go.
Votre réalisatrice ou réalisateur préféré?
Jacques Demy, et j'aime beaucoup Sofia Coppola. Pour son regard sur le monde, sur les femmes aussi. Et puis sa poésie. Et puis ses couleurs aussi.
Le film qui vous a fait le plus rire?
Le film qui m'a fait... Annabelle 2, peut-être.
C'était pas l'objectif, normalement. Un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur?
Bah, désolée, hein, j'ai l'impression d'être très redondante, mais je connais bien les demoiselles.
Vous faites un dialogue?
Non.
Allez, non, une phrase.
Je suis un peu trop timide, bah, je pourrais vous chanter toutes les chansons, mais il faudrait que vous me serviez un petit verre.
Vous en fredonnez une?
Non, je suis timide.
Votre horaire préféré pour aller au cinéma?
Je me souviens, un matin, je suis allée voir Inglourious Basterds tout seul, et j'ai bien aimé ça. Je pense que c'est bien d'y aller le matin, et bizarrement, c'est pas trop un réflexe qu'on a. Mais j'ai envie de renouveler cette expérience, d'y aller seule un matin. Un peu tout l'inverse de ce qu'on a l'habitude de le faire. Voilà.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Je pense que ça devait être une séance de cinéma en bonne compagnie. Je veux dire par là que je pense que c'était plus parce que j'étais en rendez-vous galant que parce que le film m'intéressait. Il y avait un film comme ça, c'était V pour Vendetta. Je n'ai jamais su de quoi il parlait.
Mais vous avez réussi à convaincre monsieur après?
Oui, voilà, j'ai eu un de mes premiers petits amis.
Popcorn ou glace?
Popcorn, mais attention, hein, salé. Parce que c'est dégueulasse, sucré.
Le ciné seul ou accompagné?
Bah, ça dépend, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'irrésistiblement romantique dans l'idée d'aller au cinéma avec la personne qu'on aime ou qu'on drague, simplement. Je trouve que c'est un superbe écrin à rendez-vous galant.
Le dernier film que vous avez vu en salle?
Alors, je suis désolée, j'ai une mémoire affreuse, il faut que je regarde sur mon téléphone. Quelque chose avec L'ombre de Staline, c'est possible?
Ça existe totalement.
Non, c'est ça, c'est L'ombre de Staline.
Voilà mon rapport sur le miracle soviétique.
Quelle réponse donnez-vous?
Je n'en ai pas.
Écoute, c'est de ça qu'il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé un gros morceau. Je peux démonter toute leur histoire.
Paul?
Paul Kleb est mort.
J'ai vu le corps, 4 balles dans le dos.
Sur quoi travaillait-il?
L'Ukraine.
Le trésor de Staline.
J'ai trouvé ça très très bien. Bon, parce que ça m'a plu, j'ai tout aimé, je trouvais ça très intelligent. J'aime de toute façon les films historiques en général. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est de retourner au cinéma après le confinement. Et c'est la seule fois où j'y suis allée cette année. Donc, vous voyez.
Vous allez vous rattraper pendant ce festival. Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Paris, Texas. Pour l'univers, pour les dialogues, pour le visuel et pour le pull rose en Angora. Je pense que c'est d'Angora.
Le film que vous conseilleriez à votre pire ennemi?
Alors Annabelle 2.
Heureusement qu'on n'est pas partenaire d'Annabelle 2 parce que j'aurais eu des problèmes. Vraiment, ce film vous a marqué.
Oui.
Et pour finir, je pense que je connais la réponse, la bande originale de votre vie.
Oui, bah oui. C'est mal d'être sans surprise comme ça, mais oui, les Demoiselles de Rochefort.
Et laquelle?
Peut-être la chanson de Delphine, parce que j'aime cette quête romantique de l'idéal. Je trouve que c'est quand même anti-2020, où on a comme ça... maintenant, on va sur Tinder, quoi. Et puis, on regarde les photos et on choisit du bout du doigt si la personne vaut le coup ou pas. Alors que quand même, voilà, cette Delphine qui chante avec autant de poésie cette quête de l'homme parfait, de l'idéal masculin en toute simplicité. C'était quand même autre chose.
Je vous propose de l'écouter alors. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Clara Luciani, d'avoir accepté d'être notre première invitée de ce questionnaire de Proust. C'était pas trop difficile?
Ça va.
Ça va.
J'ai eu de la chance de pouvoir dire plusieurs fois Annabelle 2.
On se retrouve dans un tout petit instant avec mes confrères critiques, toujours à Angoulême, pour débattre des films sortis en salle cette semaine. Alors, il y aura Tenet, il y aura Effacer l'historique, il y aura Petit Pays. On ira aussi voir à la sortie des cinémas ce que vous en avez pensé. Mais d'abord, donc, les Demoiselles de Rochefort dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Qu'est-ce que tu as? Je suis triste et je m'ennuie. Toi, tu me caches quelque chose.
C'est fini avec Guillaume. Ça ne pouvait pas durer.
Oh, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai jamais aimé ce type-là.
Et tu sais à quoi je pense?
Oui, à l'homme de ta vie.
Comment as-tu deviné?
Mais mon petit chou, c'est simple. Tu as toujours cet air-là lorsque tu penses à l'homme de ta vie.
Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois. Son nom m'est familier et je connais sa voix. Souvent dans mon sommeil, je croise son visage. Son regard et l'amour ne font plus qu'une image. Il a cette beauté des hommes romantiques, du divin Raphaël, le talent imité, une philosophie d'esprit démocratique, et du poète enfin la rime illimitée. Je pourrais te parler de ses yeux, de ses mains, je pourrais te parler de lui jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? L'illusion de l'amour n'est pas l'amour trouvé. Est-il près? Est-il loin? Est-il à Rochefort? Je le rencontrerai car je sais qu'il existe. Bien plus que la raison, le cœur est le plus fort. À son ordre, à sa loi, personne ne résiste. Et je n'y résisterai pas.
Ma petite, je ne crois pas que ce genre de garçon traîne dans les rues de Rochefort.
Un extrait de la bande originale des Demoiselles de Rochefort dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de ce numéro, toujours depuis le Festival d'Angoulême. On va débattre avec les critiques des films sortis en salle cette semaine au programme Tenet, Effacer l'historique et Petit Pays. À tout de suite.
Mathieu Charrier.
Et c'est maintenant l'heure d'ouvrir notre tour de table des critiques dans Clap. On va débattre des films sortis en salle cette semaine. Alors au programme Tenet, dont on a beaucoup entendu parler, Effacer l'historique, Petit Pays aussi, qui est sorti exceptionnellement hier. Avec aujourd'hui autour de moi, d'abord Marilyn Letertre, journaliste cinéma pour Madame Figaro et le site Yahoo. Bonjour Marilyn.
Bonjour Mathieu.
Et puis je suis très heureux d'accueillir Marie-Aimée Bonnefoy, qui couvre le cinéma depuis quelques années maintenant pour la Charente Libre, ici le journal local, parce que j'ai commencé à la Charente Libre, qui m'a offert ma première chance, et c'est grâce à eux que je suis là. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Mathieu, enchantée de te retrouver.
Alors on va commencer par débattre du film le plus attendu depuis le déconfinement. Le premier blockbuster a risqué une sortie en salle. C'est donc Tenet, signé Christopher Nolan.
Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes, et parfois aussi les mauvaises.
Bon, le résumé, je vais vite le faire, parce que c'est tellement dur à résumer. En gros, un agent américain, incarné par John David Washington, qu'on avait découvert dans Black Landsman, est chargé d'empêcher l'apocalypse, tout simplement, d'empêcher l'extinction de notre monde, qui est orchestré, figurez-vous, par un homme, mais depuis le futur. Voilà, donc on va alterner entre présent, futur, passé, voiture qui avance ou qui recule, balle de pistolet qui parfois re-rentre dans le barillet du pistolet quand on tire, c'est original.
Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé.
On va d'abord écouter ce que vous, vous en avez pensé à la sortie des salles.
C'est du Nolan, c'est superbe. Ça attaque dur et ça finit pareil. J'irai le revoir une deuxième fois.
Un autre concept par rapport aux autres films de Christopher Nolan. Oui, il faut s'accrocher, bien sûr, toute la notion scientifique un peu de l'histoire, mais très intéressant.
Un peu compliqué. Et alors là, avec les histoires d'inversion, ça complique beaucoup.
Je pense qu'il faut le voir plusieurs fois avant vraiment de comprendre l'histoire totalement. Mais sinon, c'est vraiment bien fichu, bien tramé.
Ceux qui adorent les films de Nolan, faut qu'ils viennent. Franchement, ils ne seront pas déçus.
Alors voilà, en résumé, Marilyn, les gens aiment bien mais n'ont pas tout compris. Votre opinion?
Eh bien, je suis comme les gens. J'aime bien, mais je n'ai pas tout compris. Et en fait, Nolan nous le dit dès le début. Il y a un de ses personnages qui dit dans le film « N'essayez pas de comprendre, ressentez ». Ben voilà, je crois qu'en fait, le film, il se résume comme ça. Il faut juste se laisser embarquer dans l'aventure. Oui, c'est un énorme camoulox, une sorte de Rubik's Cube. On ne comprend rien, c'est un gros shaker. Mais en même temps, comme un shaker, à la fois, ça donne le tournis et ça euphorise. C'est-à-dire que ça va très vite. Il y a un côté, ça a beaucoup été dit, James Bond, Mission Impossible, hyper efficace. Mais par contre, si vous me demandez de vous résumer l'intrigue, j'en suis strictement incapable. Bon, alors, ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'épates visuelles. C'est un peu d'esbrouf aussi, mais en même temps, bah, comme on dit aujourd'hui, on kiffe, voilà, on s'amuse. Et ça fait du bien de voir aujourd'hui un film de grande ampleur aussi sur les écrans. Après, de là à savoir si c'est le film qui sauvera les salles de cinéma, la grande question que tout le monde se pose, je n'ai pas la réponse, mais je l'espère.
Marie-Aimée, que pense la Charente Libre de Tenet?
Que rajouter à ce qu'a dit Marilyn, si ce n'est qu'effectivement, pour les exploitants, c'est un film à voir uniquement sur grand écran. Et donc ça sert un petit peu le cinéma qui a besoin d'être boosté.
En revanche, je suis comme elle, je n'ai pas compris grand-chose. Tout le monde dit qu'il faut le voir deux fois. Moi, je m'en passerai. Honnêtement, je m'en passerai. Je n'y retournerai pas. Tant pis, je n'ai pas tout compris à la physique quantique, à la cérébralité de Nolan. Je veux bien croire que c'est profond. Je n'en suis pas si sûre. Ce que j'ai gardé d'intéressant, c'est le film d'espionnage, les courses-poursuites, les personnages imposés, c'est-à-dire le méchant russe qui veut faire sauter la planète, sa femme, sa belle épouse qui ne sait pas comment se dépatouiller pour s'en sortir. Il nous fait voir du pays, ça c'est intéressant, la photo est superbe. Il y a des grandes scènes spectaculaires, mais 2h30...
Moi, je trouve qu'on ne les voit pas passer les 2h30. On a beaucoup dit que c'était aussi un hommage au cinéma de James Bond, enfin au James Bond au général. C'est vrai qu'on reconnaît même quelques scènes, quelques plans. Pour ça, on peut dire qu'on passe quand même un bon moment.
Oui, et puis c'est vrai que le côté James Bond, on le retrouve ne serait-ce que dans la caractérisation du méchant. C'est Kenneth Branagh qui fait un russe. Alors donc, il a un accent à couper au couteau. Mais en même temps, sa femme est effectivement une très très belle femme qui est évidemment sous le joug de cet homme tyrannique. Voilà, mais on a un Robert Pattinson en espion un peu dandy, les cheveux blonds, peroxydés. Voilà, il y a un côté très James Bondien dans la caractérisation des personnages, mais en même temps c'est ça aussi qui fait le charme du film et qui fait qu'on lui pardonne petit excès de prétention qu'il a en nous disant qu'il est plus intelligent que nous. C'est parce qu'à côté de ça, il y a une efficacité totale.
Moi quand même, je trouve que ça manque d'humour, ça manque de... c'est un petit peu plombant quand même, c'est... ça se prend très au sérieux, honnêtement, même si c'est virtuose, ok, même si c'est du grand cinéma, moi je préfère la pointe décalée d'humour de James Bond.
Et vous le disiez, ce qui est pratique, c'est comme il faut aller le voir deux fois pour essayer de comprendre de quoi ça parle, ça va relancer la fréquentation en salle. Voilà. Warner a dit qu'il fournirait les chiffres que lundi, ce qui est exceptionnel. Donc on ne peut pas encore vous dire si ce Tenet signé Christopher Nolan a bien démarré ou non.
Clap, Mathieu Charrier.
Ah non, je peux plus faire l'amour avec vous, monsieur. Je le saurais, hein, quand même.
Donc vous m'avez offert un whisky. Donc à ce moment-là, je vous ai proposé de venir dormir chez moi. Et on a fait l'amour.
Comment ça, une vidéo? Faut effacer ça tout de suite.
Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer.
Si je viens, c'est maman. Ne tape pas mon nom dans Internet, s'il te plaît. J'arrive.
Deuxième film dont on débat aujourd'hui dans Clap, il a fait l'ouverture ici du festival d'Angoulême où nous sommes toujours, il a fait l'ouverture hier soir, c'est Effacer l'historique du duo Carverne et Delépine à qui on levait déjà Saint-Amour, Mammouth, I Feel Good avec Jean Dujardin qui était déjà présent ici. Alors il signe une nouvelle satire contre l'ère que nous vivons, cette ère du tout numérique à travers trois amis, il y a Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Mézéro. Blanche Gardin, elle doit payer à Vincent Lacoste une rançon si elle ne veut pas qu'il diffuse leur sextape sur les réseaux sociaux, voilà. Corinne Mézéro, elle est chauffeur VTC, c'est-à-dire qu'elle enchaîne les courses et les mauvaises notes, elle comprend pas pourquoi. Et puis vous avez Denis Podalydès qui doit aider sa fille harcelée sur les réseaux sociaux. Les trois voisins de lotissement, anciens gilets jaunes de la première heure, vont donc partir à l'attaque des GAFA, rien que ça. Alors vous, qu'en avez-vous pensé à la sortie des salles? On écoute.
J'ai beaucoup aimé, voilà, j'aime beaucoup ces réalisateurs. Ce qui m'a fait rire, c'est des clins d'œil, c'est l'autodérision sur soi-même. Moi, je me suis reconnue dans plein de situations. Donc...
c'est gentil, mais je le trouve un peu inabouti. Il n'y a pas beaucoup d'histoire quand même, mais bon, c'est un bon moment.
Il y a des choses qui sont dénoncées, mais pourraient l'être avec plus de subtilité.
C'est assez drôle parce que plus ils avancent dans leur travail et plus ils sont poétiques.
Excusez-moi, j'ai dormi pendant une nuit. Je ne peux pas vous dire, je retournerai le voir. Ça a l'air bien. Excusez-moi, bonne journée.
Marie-Aimée, ce monsieur a dormi tout le film. Et vous?
Alors, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est, pour résumer, c'est Kafka chez les GAFA. J'avais été un peu déçue par I Feel Good. Moi, je les suis depuis le début, le duo Carverne et Delépine. Je suis une fan. Et je trouvais I Feel Good un peu désinvolte. Et là, je trouve ça très écrit, très argumenté, très suivi. Même si ça semble un peu chaotique, je trouve que ce chaos sert aussi... l'argument qui est un sujet politique et sociologique. Et c'est ce qu'ils disent, tout le monde le vit tous les jours. Et c'est ça qui m'intéresse chez eux, c'est que même s'ils situent un peu leur histoire dans une zone périurbaine, pavillonnaire, qu'ils aiment défendre, mettre en avant, je trouve que ça parle à tous, c'est un film qui parle à tous. Et j'aime leur combat et ils continuent à se battre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Faut préciser que c'est l'univers de Carverne et Delépine. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu de potacherie. On est, pas dans le... c'est drôle, on n'est pas dans le décalé comme ils ont pu le faire à une certaine époque. Mais quand même, Marilyn.
C'est très très subversif, ça l'a toujours été dans leur cinéma. C'est le duo de cinéastes punk du cinéma français. Donc effectivement, tout le monde en prend pour son grade, l'État français, mais aussi les Gilets jaunes. Enfin, voilà, c'est ça, on l'a peut-être pas encore dit, mais c'est le premier film qui traite effectivement de la question des Gilets jaunes, puisque les trois héros du film se sont rencontrés sur un rond-point. Et justement, le rond-point, c'est une figure centrale dans le cinéma de Carverne et Delépine, puisque ce qu'ils disent toujours, c'est qu'ils aiment filmer la France de la périphérie, et la périphérie pour eux, le symbole, c'est le rond-point. Donc le film, il est libre, il est intelligent, il est subversif. Et tout à l'heure, on disait qu'il fallait aller, pour reparler de Ténet, voir Ténet une deuxième fois. Eh ben non, allez le voir une fois et puis allez voir Effacer l'historique, parce que eux aussi, ils mettent le monde sans dessus dessous, mais avec humour, avec intelligence, avec un vrai propos fort, pardon, sur ce qu'on disait, l'ubérisation de la société et sur la déshumanisation de notre monde hyper connecté et en réalité très déconnecté. Et surtout, c'est porté par un trio d'acteurs formidables que sont Corinne Maziero, Denis Podalydès et Blanche Gardin, qui sont hyper raccord avec le côté punk du cinéma de Carverne et Delépine.
Voilà pour Effacer l'historique, qui lui a très bien démarré en salle mercredi dernier. On a les chiffres, donc voilà. Public semble pas déçu, donc allez voir ce film signé Carverne et Delépine.
Clap. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire.
Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue, ils vont à la même église.
Ça se bat pourquoi alors?
Et bah à cause de leur nez.
Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? Séparer la classe en deux. Papa!
Ouais.
Il y a eu des coups de feu.
Qu'est-ce
qui se passe là?
Je suis là.
Des militaires ont tué le nouveau président.
Dernier film dont on débat dans Clap, votre nouvelle émission cinéma, il est sorti juste hier, c'est Petit Pays, signé Éric Barbier, le réalisateur qui adapte donc ce roman de Gaël Faye, sorti il y a 4 ans, Goncourt des lycéens, plus d'un million d'exemplaires vendus, c'est énorme, et dans lequel Éric Faye racontait son enfance au Burundi, comment cette enfance avait été chamboulée, c'est le moins que l'on puisse dire, d'abord par la prise de pouvoir des militaires au Burundi, puis ensuite évidemment par le génocide rwandais qui avait enflammé toute la région. Voilà, il avait raconté dans le livre, je trouve que le film est très adapté du livre et raconte bien l'univers du livre. Je crois que Marilyn n'est pas tout à fait d'accord, on va y revenir. Mais vous, public, qu'en avez-vous pensé? Vous, spectateurs, on vous écoute.
Bouleversant, extraordinaire, un film que je vais garder en mémoire. Il sort vraiment du commun.
La violence, je pense qu'elle a été certainement au centuple de ce qu'on voit dans le film. C'était quand même un peu caché, heureusement, parce que sinon, ça aurait été insoutenable.
Je trouve que les comédiens sont extraordinaires. De la mère au père aux enfants, tous sont formidables.
Moi, je suis d'origine rwandaise, enfin, je suis né là-bas et... Donc j'étais là-bas à l'époque pendant le génocide. Ce que j'aime aussi, c'est par rapport au livre. Le réalisateur a su se réapproprier et en même temps, tout en restant fidèle.
Marilyn, d'abord la parole au procureur. Vous n'avez pas été, j'en rajoute un peu, mais vous n'avez pas été totalement convaincue par Petit Pays.
Effectivement, je n'ai pas été totalement convaincue sans non plus trouver le film mauvais. Donc de là à m'appeler procureur, il y a une petite marge. Mais cela dit, je trouve que le film est beaucoup moins fort que le livre. Le livre se mettait vraiment à hauteur d'enfant, ce qui est somme toute a priori l'ambition du film. Je trouve qu'il n'y parvient pas. Parce que le film, il faut dire, est un peu plus resserré sur la cellule familiale, un peu moins sur l'enfant et ce qui se passe à côté. Pour le coup, moi, je trouve qu'on perd énormément en force, en charme et en émotion. Ce qui, pour moi, est totalement préjudiciable. Parce qu'en plus, un film sur le génocide rwandais à hauteur d'enfant, sans émotion, c'est quand même très très regrettable. Je pense qu'il y avait là matière, effectivement, à nous mettre les poils, comme on dit. Donc voilà. Et au-delà de ça, je trouve que Jean-Paul Rouve est très très bon, mais je ne suis pas convaincue par le reste du casting. J'avoue que ça m'a énormément sorti du film, parce que je n'y croyais pas, je ne les trouvais pas spécialement justes.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Marilyn et je crois que Marie-Aimée est de mon avis. Nous allons donc l'écouter.
Je ne suis pas d'accord non plus. Je trouve Marilyn sévère. Je pense que c'est le problème de la transposition d'un livre aussi fort à l'écran. C'est difficile. Je trouve qu'Éric Barbier s'en est plutôt bien sorti, bien mieux que ce qu'il avait fait avec La promesse de l'aube. Et je ne m'attendais pas à, non pas une énorme réussite, mais cette réussite un peu, au fond, consensuelle. Je pense même qu'on peut conseiller à des adolescents d'y aller, parce que le roman a eu le prix Goncourt des lycéens. Je trouve que c'est très didactique pour eux, sans trop les violenter, parce que la violence est hors champ, malgré une scène qui prend aux tripes. Et finalement, ça dit beaucoup de choses d'un conflit qu'on aurait pu oublier, qui revient à l'écran, c'est intéressant. Je suis d'accord sur l'interprétation, à part Jean-Paul Rouve, qui est un petit peu faible, mais ça la donne son cachet, justement, je ne sais pas comment dire, mais local, du film, en plus, hein, cette espèce de, peut-être un peu de surjeu, mais ce n'est pas très gênant. Et voilà, je
précise que vous êtes une ancienne professeure de lycée, oui. Donc quand vous dites d'aller le voir avec des adolescents, vous savez de quoi on parle.
C'est ma position un petit peu de prof de lettres. Hein. Et oui, parce que je trouve le film très didactique au fond.
Le mieux, c'est d'aller voir Petit Pays pour vous faire votre avis. Parce que même si Marilyn a des réserves, elle le dit elle-même, c'est quand même un film qu'on peut aller voir. C'est loin d'être un film raté. Voilà ce que l'on pouvait dire des films sortis cette semaine. Merci beaucoup à Marilyn Le Tertre, que je vous invite à lire dans Madame Figaro, à Marie-Aimée Bonnefoy, que vous pouvez également lire dans La Charente Libre. Et maintenant, on trouve tous ces journaux en ligne facilement, même quand on ne vit pas en Charente. Donc allez-y. Et merci au Festival du film francophone d'Angoulême qui nous a accueillis pour ce premier numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On se retrouve la semaine prochaine, 14h, toujours le samedi sur Europe 1, pour un nouveau récit, cette fois consacré à Kirk Douglas. Ce sera l'occasion pour nous de parler des acteurs engagés en politique. Et puis un nouvel invité du questionnaire, un nouveau tour de table, bref, même programme. D'ici là, surtout, allez au cinéma, masqué, j'ai testé, c'est pas du tout gênant. Dans un instant, vous retrouvez Isabelle Morizet qui reçoit aujourd'hui Yves Candebord, le chef cuisinier. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1.